Auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est lundi, il est 9h30. Vous êtes bien, vous êtes au mieux, c'est I Love Mes Cheveux. Alors I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal et mes invités aujourd'hui sont Sylvie Humbert-Mougin et Bernard Banoun. Bienvenue Sylvie, bienvenue Bernard.
Bonjour.
Et comme on se connaît depuis 20 ans et quelques, on va se tutoyer, donc voilà, les auditeurs ne seront pas choqués par nos tutoiements. Alors, avant de vous poser quelques questions rituelles, des présentations tout de même, parce que moi je vous connais depuis un petit moment et je pense que je vais apprendre plein de choses sur vous deux, en fait. Sylvie Humbert-Mougin est professeure des universités, spécialiste de littérature comparée, en particulier de théâtre européen, qui m'interrompt dès que je dis des bêtises, de l'influence des théâtres grecs et latins en Europe moderne et contemporaine, mais aussi d'histoire de la traduction, et c'est un peu le sujet du jour. Et le dernier ouvrage dirigé, figure mythique féminine à l'époque contemporaine aux éditions Kimé en 2024, je crois, voilà, qui est sorti récemment en tout cas.
C'est ça. Alors en fait, il y a un nouveau titre depuis.
Ah d'accord, il y a un nouveau titre, vas-y. Alors j'ai du mal à tenir la bibliothèque.
Qui est plus en lien avec les sujets que tu as indiqués, puisque c'est un ouvrage sur l'histoire de la réception du théâtre de Sénèque, et ça s'appelle « Le monstre apprivoisé ».
Ah oui, je l'ai vu passer en plus. Voilà. Je ne l'ai pas lu, hein, j'avouerai.
Mais c'est assez récent. Donc,
je l'ai vu passer, mais je n'avais pas vu.
2025.
D'accord, je n'avais pas vu que c'était plus récent. Bon, mais c'est bien. C'est pas comme si c'était mon métier de faire de la bibliographie. Bon, ce n'est pas grave. Non, mais très bien. Donc, c'est bien. Et Bernard Banoun, également, avec nous dans le studio de Radio Campus Tours, est professeur des universités spécialisé dans les littératures de langue allemande contemporaine à Sorbonne Université. J'espère que je ne me trompe pas, parce que j'avoue que je suis un peu vieux et que je n'ai pas suivi toutes les reconfigurations. Et ses recherches portent sur la littérature interculturelle, l'histoire des traductions et l'opéra. Et dernière publication, mais là aussi je pense que j'ai dû en rater, on aura l'occasion de parler d'autres choses, c'est une série de 10 poèmes de Macha Kaleko dans la revue Germanica, parue en 2025. Et je close cette intro en précisant, en rappelant, qu'il y a un compte Instagram dédié ILMC 2025, qu'on peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts, et qu'on peut même commenter en direct, poser des questions à nos invités sous la dernière publication, interviewer nos invités à ma place. Bien, donc je me tourne vers vous deux, chers collègues, en commençant peut-être par Sylvie, vous posez un peu une question rituelle pour que nos auditeurs, auditrices vous connaissent un peu mieux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu aux littératures de langues étrangères, que vous avez, comment le formulerais-je, que vous êtes intéressé à autre chose que les littératures en français ou qu'à la langue française, aux langues étrangères en général. Sylvie.
Oui, eh bien écoute, moi, mon parcours au départ, c'est un parcours de lettres classiques, comme on dit. Donc c'est ça mon premier contact avec les langues étrangères, c'est avec les langues mortes. Et je me suis intéressée à l'histoire de la traduction du grec ancien, plus précisément du théâtre grec ancien, à une époque, enfin c'est mon domaine initial, disons, de recherche, au 19e, 20e siècle, pour voir justement, ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment ce théâtre antique était justement, à cette époque-là, commençait à être perçu comme un objet étranger. Mmh. Et plus simplement comme une sorte d'ancêtre du théâtre européen ou du théâtre français. Donc c'est ça mon point de départ.
Une formation en littérature antique,
oui,
et ancienne.
Oui, tout à fait, une formation classique.
Et que tu déclines sur une observation, une étude des résurgences ou des influences de ces théâtres-là.
Oui, sur l'angle de la réception, comment ces œuvres sont... transmise, traduite, interprétée, jouée aussi. Je m'intéresse à l'histoire de la mise en scène de ces corpus.
Oui, c'est un autre point commun entre vous deux, c'est que vous vous intéressez aussi à des questions qui relèvent, on va dire, des arts du spectacle en général. Ok, ben merci beaucoup. Et donc, Bernard.
Eh bien, moi, pour, si je ne parle pas de questions trop personnelles, trop anciennes, comme ça, de sorte d'auto-psychanalyse, disons que j'ai... Bah, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, des très bons professeurs de langue quand j'étais au lycée. Bon, je suis d'une génération à laquelle, quand on était bon élève, on faisait de l'allemand en première langue. Et j'ai eu d'excellents professeurs d'allemand qui m'ont tout fait sauf faire de la grammaire. Et donc, on parlait, etc. Donc, ça a bien marché pour moi. Il y a le lien avec la musique pour moi qui est très intéressant pour le choix de l'important pour le choix de l'allemand. Cela dit, c'est vrai que j'aime beaucoup d'autres langues aussi. J'ai aussi des tropismes comparatifs, puisque j'ai aussi fait des études en littérature comparée, et c'est vrai que je n'aime pas que la littérature allemande, j'aime beaucoup les littératures et les autres langues, mais je me suis aussi spécialisé vers l'allemand parce que pour des raisons pratiques, et puis c'est vrai pour des raisons liées notamment donc à mon intérêt pour la musique.
Et quand tu parles d'intérêt pour la musique, c'était lié à Bach, ou c'est
Oui, alors dans
plus
mon
récent,
cas, c'est plutôt la musique classique allemande, mais c'est alors Bach bien aussi, mais beaucoup la musique de la première école de Vienne, donc c'est-à-dire Schubert, Beethoven, le Lied, l'opéra, qui est beaucoup compté pour moi. Voilà.
D'accord, ok, très bien. Mais c'est un éclairage qui me manquait, j'avoue. Merci beaucoup. Eh bien. On va attaquer le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et alors évidemment, c'est de la radio, donc les auditeurs, auditrices ne le voient pas. Mais nous avons dans le studio, nous avons un studio qui n'est pas envahi par des livres. Mais enfin, il y a beaucoup de livres et notamment les 4 forts volumes de l'histoire des traductions en langue française parus aux éditions Verdier. Alors j'avoue que je n'ai pas revérifié les dates, mais le dernier volume, c'était celui que tu as co-dirigé, Bernard, en 2019.
Oui.
Et les publications ont commencé en 2012 ou quelque chose comme ça, il me semble. Voilà. Et parce que j'avouerai que je n'ai que 2 des 4 volumes.
Dans le désordre.
C'est dans le désordre. Ça a commencé par le 19e, puis 16e.
Je crois que c'est 17e, 18e, ensuite 15e, 16e et ensuite 20e.
D'accord, ok, très bien. Et donc, bah, de toute façon, bah, pour les personnes qui veulent les consulter en bibliothèque ou les acquérir, la collection est désormais complète depuis 6 ans. Et donc, ce sont des livres assez monumentaux, puisqu'ils font chacun entre 1200 et peut-être 1800 pages pour celui du 20e, il me semble.
Presque 2000, en fait.
Presque 2000 pages. On est vraiment dans des espèces de pléiades de l'histoire de la traduction, puisqu'ils sont en papier Bible en plus. Donc, je pense qu'on est dans un papier Bible un petit peu moins friable, peut-être que celui-là, enfin, un petit peu plus facile à lire, je ne sais pas, que les pléiades, pour essayer de les décrire pour les personnes qui ne savent pas de quoi on parle. Et puis, plus que le contenant, parlons du contenu avec vous. Quel était le projet, en fait, de cette histoire des traductions en langue française et quel a été, à l'un comme à l'autre, votre rôle dedans? Je ne sais pas lequel des deux veut parler en premier, Bernard.
Alors, je veux bien donner un début de réponse. Alors, en fait, c'est un projet collectif, hein, avec de très, très nombreux chercheurs. Et ce projet collectif, il a été lancé par 2 comparatistes, qui sont Yves Chevrel, qui était professeur de littérature comparée à Sorbonne Université, et Jean-Yves Masson, qui est maintenant professeur dans cette même université, mais qui était à l'époque professeur à Nanterre. Et c'est un projet qui, à tous deux, leur tenait à cœur, pour des raisons peut-être d'ailleurs un peu différentes. Jean-Yves Masson lui-même est traducteur et a beaucoup écrit sur la traduction. Yves Chevrel, lui, s'est toujours intéressé aux questions de transfert, de réception et depuis très longtemps à la traduction et aussi comment enseigner les œuvres étrangères, les œuvres traduites dans le cadre des cursus de littérature comparée. Et donc, ils ont lancé ça au tout début de notre siècle. Et donc, il y a eu une gestation très longue pour diverses raisons qui sont le fait qu'il y a un très gros travail à faire. Et on a été donc, depuis le début, soutenus et associés aux éditions Verdier, qui ont tenu le jusqu'au bout, qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup soutenus. Il y avait une personne attachée à la rédaction des volumes qui nous ont orientés bibliographiquement. Et par exemple, le volume 20e siècle fait un peu moins de 2000 pages parce que 2000 pages, c'était le maximum pour qu'on puisse relier les livres. Voilà. Donc, les éléments pratiques sont importants parce que...
Ce sont des reliures cartonnées. Hein,
voilà, cartonnées, ce sont des beaux...
Ce sont de très beaux livres.
Voilà. Et donc, ce sont des livres, ils n'existent pas en format e-book, mais j'insiste sur le fait que ce sont des livres, parce que pour Yves Chevrel, justement, je voudrais rappeler ce qu'il disait comme précepte auquel on devait tous se tenir quand on faisait la recherche. chercher pour les chercheurs, c'est qu'il fallait avoir tenu les livres en main ou éventuellement avoir vraiment un scan de l'original comme on peut l'avoir sur Gallica, mais il fallait avoir des sources sûres. Et donc là, voilà, l'objet livre, ça commence en fait, le premier, ça commence à l'imprimerie, fin du 16e et du 15e, et puis ça va jusqu'à ben, au tournant du 20e et du 21e siècle.
Oui, d'ailleurs, dans la, je ne sais plus si c'est la postface ou la préface, j'avoue que je ne me souviens plus, mais tu expliques pourquoi vous vous êtes arrêté à l'année 2000 et tu ouvres la perspective d'une histoire des traductions en langue française 21e siècle que nous ne verrons pas probablement ici autour de cette table, à moins de la commencer avant la fin du siècle. Mais c'est un autre sujet. Sylvie, oui, tu as...
Juste pour préciser à quel titre moi je suis intervenue, j'ai travaillé justement dans le premier volume publié, celui du 19e siècle, et j'ai co-dirigé avec une collègue comparatiste, Ariane Ferry, le chapitre consacré au théâtre, à la traduction du théâtre au 19e siècle.
Alors quand on dit chapitre, il faut quand même préciser qu'un chapitre d'un livre comme celui-là, je suis en train d'essayer de feuilleter pour avoir mes antisèches, mais tu vas me le dire, un chapitre c'est 300 pages, non?
Peut-être pas autant pour ce chapitre-là, j'avoue que je n'ai plus en tête.
Je cherche pendant que tu réponds.
Donc là aussi, hein, à l'échelle du chapitre, on retrouvait les principes que vient de rappeler, enfin les caractéristiques que vient de rappeler Bernard. C'était un chapitre collectif. Il y avait à peu près une petite vingtaine de spécialistes qu'on a associés à ce travail. Et donc, l'idée, c'était en effet de produire une histoire et pas simplement un catalogue raisonné où il fallait vraiment... Enfin, c'était un des objectifs aussi des deux promoteurs de ce projet et puis de l'équipe. De produire une histoire raisonnée, on peut dire. Il y avait d'autres grands principes. Peut-être tu peux.
Oui, il y avait bon. Disons que une chose que ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est à la fois un bilan et une recherche. C'est-à-dire qu'en fait, des histoires de la traduction, il n'y en a pas beaucoup qui existent. Il y en avait une pour l'Espagne et une pour la Grande-Bretagne, pour l'anglais ou plutôt pour la Grande-Bretagne. Mais c'est un projet quand même assez pionnier par son ampleur, par le fait qu'ils veulent... donc, il s'appelle HTLF, histoire des traductions en langue française et pas des traductions littéraires. Donc, il y a l'idée qu'on veut explorer le plus grand nombre de domaines. Alors, évidemment, il y a des domaines qu'on n'a pas explorés. Certains parce qu'on n'a pas forcément trouvé les personnes. D'autres parce que ce sont des points aveugles. On n'a pas, par exemple, dans le XXe siècle, le chapitre sur les ouvrages pratiques. On voulait avoir sur le jardinage, la couture, etc. Mais en fait, bon, on n'a pas fait. Mais c'est très important et c'est très intéressant.
C'est intéressant. Alors, je fais juste un petit clin d'œil à un des tout premiers invités de l'émission, Éric Rambeau, notre collègue, qui a traduit des dizaines et qui était venu en parler, des dizaines de livres de livres de vulgarisation, de bricolage, justement exactement ce que tu décris. Et effectivement, c'est tout un pan de la traduction auquel on ne pense pas, en fait, en général, parce qu'on s'imagine toujours la traduction de Shakespeare ou de Goethe, mais tout à fait.
Et donc, c'est à la fois bilan, parce qu'en fait, les recherches sur la traduction et l'intérêt pour la traduction, aussi bien sur le plan théorique, et dans toutes ses variations, est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, qui s'est beaucoup renforcé vers les années 60. Donc, de ce point de vue-là, il y a un côté bilan, mais en même temps, il fallait faire des recherches pour justement construire cette histoire. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de recherches sur des sources, sur des bibliographies et faire émerger des types d'œuvres qu'on n'avait pas abordées sur cet angle-là.
Alors, je veux juste préciser que pour chaque volume, il y a, et certains auteurs se retrouvant d'un volume à l'autre, soit en maître d'œuvre, soit en petite main, j'ai envie de dire, ou grande main, je ne sais pas, il y a à chaque fois une cinquantaine, il y a vraiment un très grand nombre de collaborateurs pour chaque ouvrage. Est-ce que tu te rappelles combien de personnes ont travaillé pour le 20e, par exemple ?
Là, il y en a plus de 200.
Oui, j'allais dire, dire une centaine, j'avais peur d'exagérer. Mais
très nombreux, parce que le 20e siècle, en fait, c'est un volume qui est plus épais. Alors, pour plusieurs raisons, c'est parce qu'il y a au 20e siècle, de toute façon, une augmentation quantitative quantitative, surtout dans la deuxième moitié et surtout dans le dernier quart de la traduction, en volume de livres. Il y a une augmentation
de la réflexion
sur la traduction. De donc Benjamin, on a deux gros Derrida, chapitres. Voilà. Même si cette réflexion en fait a toujours existé, mais elle est beaucoup plus présente. Donc il y a deux chapitres là-dessus. Et il y a aussi une augmentation des langues traduites et des espaces traduits. Et donc ça, on a vraiment voulu en tenir compte. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la carte mentale de la traduction mondiale se modifie grâce à la traduction, donc notamment des traductions extra-européennes. Et puis, il y a aussi les domaines traduits. Alors, beaucoup de domaines traduits ont existé, mais là, on a voulu en explorer un très grand nombre. C'est pour ça qu'il y a des choses relativement qui ne touchent pas tout le 20e, mais qui touchent plutôt la fin, comme un chapitre sur le féminisme et études de genre. C'est pour ça qu'il y a un chapitre sur la psychanalyse, voilà, des choses comme ça, et donc qui sont évidemment essentielles, mais qui n'existaient pas forcément avant.
Alors, si on veut, justement, parce que tu cites de mémoire, parce que tu as vécu avec cet ouvrage et avec ce projet pendant très longtemps.
Oui.
Donc, tu es, quelques années après la publication, tu es encore capable de réciter les titres des chapitres, peut-être même dans l'ordre. Moi, j'ai mes antisèches. Je me suis permis d'ouvrir l'ouvrage du 19e que tu as apporté, dont parlait Sylvie. Et donc, effectivement, le chapitre sur le théâtre fait une centaine de pages. Et je vais juste lire les titres des chapitres. Mais il faut savoir qu'il y a un sommaire au début de chaque volume, ce qui est évidemment indispensable. Le sommaire fait la bagatelle de 10 pages. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, je vais juste vous lire les titres des chapitres, sans citer les noms des auteurs principaux, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Chapitre 1, théorie. Chapitre 2, traducteur au pluriel. Une antiquité nouvelle. Traduction littéraire, approche bibliométrique. Et là, on a quand même 80 pages de réflexion sur cette question technique et passionnante, parce que le titre pourrait faire peur comme ça, mais c'est un chapitre passionnant. Chapitre 5, poésie. Chapitre 6, théâtre, co-dirigé par Sylvie, ici présente. Suivent ensuite prose narrative, littérature d'enfance et de jeunesse, métamorphose du panthéon littéraire, historien, sciences et techniques, philosophe, texte juridique, récit de voyage, co-dirigé par Lucille Arnoux-Farnoux, qui est venue à ce micro en mars et qu'on salue bien. Et enfin, le dernier chapitre, dirigé par Yves Chevrel, dont tu mentionnais le rôle essentiel dans l'ensemble du projet, consacré aux religions. Donc c'est pour bien montrer qu'effectivement, on n'est pas sur des traductions littéraires au sens strict, mais qu'on a un très vaste panel. Et tu disais qu'au XXe siècle, on était allé encore plus loin. Oui.
Oui, en fait, une chose pour donner une idée de la manière dont sont organisés les volumes, même si ce n'est pas toujours le même ordre dans tous les volumes, il y a quatre domaines principaux, c'est-à-dire qu'il y a un aspect bibliographique, c'est-à-dire combien de livres, etc. Ensuite, il y a un aspect sur les traducteurs, c'est-à-dire en fait, les figures de traducteurs, qui sont-ils, comment vivent-ils, etc. Dans quelles conditions socio-économiques. Ensuite, une partie sur les théories, c'est-à-dire comment pense-t-on la traduction à cette époque-là. Et ensuite, une partie sur les ouvrages traduits avec les différents domaines dont tu as mentionné quelques-uns. Ce sont les quatre orientations principales, les quatre champs qu'on a voulu couvrir.
Et c'est vrai que si on prend les quatre volumes avec les chapitres traducteurs, on aurait, en les mettant côte à côte dans un nouveau volume, quelque chose qui n'existe pas en tant que tel. Et tu disais que le livre, il était pionnier à de nombreux égards. Ça fait partie des choses aussi qui dressent un portrait extrêmement fin de qui traduit depuis le début de l'imprimerie, depuis la naissance de l'imprimerie. Et c'est tout à fait passionnant.
Il y a un index à la fin, il y a des index, dont un index des traducteurs et traductrices, et ensuite un index des auteurs et autrices, dans cet ordre-là, l'index des traducteurs en premier. Et donc, il y a un très grand nombre de traducteurs, et dans le XXe siècle, c'est-à-dire un index très compliqué à faire, il y a 4000 traducteurs, et il y en a qui manquent, beaucoup qui manquent.
4000 traducteurs, c'est pas tant que ça.
Non.
Pour le XXe siècle.
Non.
Mais c'est énorme à l'échelle d'un seul livre, on est bien d'accord. Non, mais c'est... Donc il y a c'est un projet qui avait une prétention encyclopédique, vous diriez ça comme ça, qui avait une prétention à être le plus exhaustif possible ou
Oui, c'était quand même alors exhaustif non, surtout en particulier pour le 20e, je pense que c'était difficile. Pas une ambition d'exhaustivité, mais une ambition effectivement de sortir de l'approche strictement traduction littéraire, de sortir aussi de l'hexagone, puisque le titre général du projet et des ouvrages, c'est Histoire des traductions en langue française. Et donc, la traduction en langue française a été aussi envisagée dans les pays francophones. Et ça, c'était aussi une dimension, alors, peut-être particulièrement marquée pour le XXe siècle, hein, de voir comment les choses ne sont pas, évidemment, ne se passent pas de la même façon en Belgique, au Canada. Enfin, donc ça, c'était aussi un parti pris vraiment intéressant du projet. Et donc, bon, l'ambition ne pouvait sans doute pas rendre possible l'exhaustivité, mais à coup sûr, un élargissement très important par rapport à ce qui pouvait exister. D'ailleurs, il n'y avait pas, hein, en France, il y avait des ouvrages sur l'histoire, des théories de la traduction, des ouvrages sur quelques figures, des dictionnaires de traducteurs, mais pas une histoire des traductions en langue française. Donc là, l'ouvrage a vraiment apporté beaucoup, je pense. Enfin, le projet, disons, l'ensemble des ouvrages.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encyclopédique dans le sens où il y a une volonté de couvrir de très nombreux champs. Mais une des difficultés, mais aussi un des intérêts, quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est d'avoir plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir les vues diachroniques et les vues d'ensemble. Et en même temps, citer... faire sentir la matière même de la traduction ou des ouvrages ou des conditions matérielles, citer plusieurs traductions pour faire montrer les différences, ce qui est toujours assez compliqué, qui prend beaucoup de place aussi. Mais on a voulu essayer de faire toujours l'aller-retour entre les deux, ces deux extrêmes en quelque sorte.
D'un point de vue, là c'est ma petite graine décoloniale, mais il y a un chapitre sur les traductions françaises et découvertes ou redécouvertes ou retraductions des classiques extra-européens, notamment d'Asie, hein, qui est extrêmement intéressant. Et il y a un chapitre aussi sur les retraductions. Alors, je vais poser une question qui peut nous emmener très loin, mais je pars d'une anecdote que je n'ai même pas besoin d'inventer, qui s'est produite mardi dernier, puisque j'assure un CM, un cours magistral de traduction en deuxième année d'anglais. Et comme c'était le premier CM, j'énonce quelques généralités. D'un point de vue relativement technique. Et pour prendre un exemple, j'avais affiché la première phrase d'un roman qu'on connaît tous, Mrs. Dalloway, et quatre traductions. Et je n'avais pas encore expliqué ce qu'étaient ces quatre traductions. J'avais bien mis le nom des traductrices, toutes des traductrices d'ailleurs. Quand une main s'est levée, une étudiante m'a demandé « Mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs traductions ? Comment ça se fait ? Pourquoi il y a plusieurs textes ? Pourquoi il y a... » Et me voilà donc à expliquer, pour le coup en 30 secondes, et vous allez avoir plus de temps, à expliquer en 30 secondes qu'effectivement, même pour des textes relativement récents, Mrs. Dalloway n'a que 100 ans après tout, hein, on peut avoir des impératifs ou des désirs ou des volontés de retraduire. Alors, quand on parle d'histoire des traductions, forcément, peut-être que c'est moi qui ai ce biais-là parce que ça m'intéresse particulièrement, mais qu'est-ce qui fait que l'on retraduit ? Est-ce que vous-même, vous avez participé à des... Vous avez étudié des cas de retraduction, ça je n'en doute pas. Vous avez participé à des entreprises de retraduction. Vous battez pas.
Alors moi pour la retraduction, en fait j'ai retraduit quelques récits de Stefan Zweig pour la Pléiade. Stefan Zweig, voilà. Stefan Zweig est un auteur qui est vraiment en pleine retraduction. Bon, il y a beaucoup de retraductions pour les Allemands, bien sûr, Kafka, etc. Et il y a un chapitre sur la retraduction qui est en effet un chapitre assez épais, sur une partie théorique et puis une partie ensuite avec des points forts qui sont Dostoïevski, Shakespeare, Kafka, justement. Alors, la retraduction, en fait, il y a plusieurs... on pourra en parler très longuement parce que c'est un sujet infini et très complexe, mais il y a un aspect historique, c'est-à-dire qu'en fait, on dit que les traductions vieillissent plus vite que les originaux. C'est-à-dire qu'en fait, la traduction est dans un rapport à la langue qui est plus situé historiquement que l'est l'œuvre littéraire qui, justement, s'abstrait dans une distance par rapport à la langue. Et cette distance par rapport à la langue n'est pas forcément reconstruite par la traduction et pourra l'être après, dans une retraduction où la langue aura évolué. Un autre aspect, à mon avis, qui est important, c'est que la traduction, même si quand on traduit, on essaie de faire le mieux et on se dit, voilà, on veut atteindre la perfection, la traduction n'est pas parfaite. D'ailleurs, peut-être que rien n'est parfait dans ce monde, mais en tout cas, la traduction, elle est une lecture de l'œuvre et que plus on a si on a plusieurs lectures, en fait, on a plusieurs environnements de l'œuvre. Et ça, par exemple, pour des très grands textes, la Bible, le premier texte, la Bible, c'est un texte traduit et retraduit sans cesse. Donc, c'est un phénomène XXe siècle, mais c'est un phénomène, en fait, ancien.
Sylvie ?
Oui, j'étais intéressée par ton anecdote parce que voilà, c'est une anecdote dont j'ai fait aussi souvent l'expérience. Ça m'arrive de...
En tant que comparatiste, tu ne m'étonnes
oui,
pas.
Oui, voilà, mais... de proposer aux étudiants des échantillons de traduction et ça suscite souvent cette curiosité. Et la question de la retraduction, effectivement, elle est cruciale aussi pour les textes qui m'intéressent plus particulièrement, les textes de l'Antiquité grecque et latine, qui bien sûr ont été retraduits en permanence. Il y a bien sûr la nécessité de mettre à jour, d'actualiser la langue aussi de la traduction. Il y a aussi souvent une dimension un peu polémique qui anime le retraducteur. Hein. Il s'agit de traduire contre aussi les traductions antérieures pour faire émerger une nouvelle vision de l'auteur traduit. Je pense à un critique spécialiste de la traduction qui s'appelle Antoine Berman, qui justement s'intéresse à cette, qui souligne cette idée que on traduit pour l'auteur et on retraduit contre les traducteurs antérieurs. Je ne sais pas si.
Oui, j'allais me tourner vers Bernard en lui posant
si
la
Bernard
question.
Si Bernard a des partages ou pas, c'est un peu rapide, hein, mais. J'ai souvent fait l'expérience de cette dimension polémique. Par exemple, quand on regarde les traductions de Florence Dupont sur le théâtre latin et pas seulement, on voit bien comment sa traduction est animée d'une volonté de sortir l'auteur hein, d'une vision qu'elle juge inadaptée, de sortir aussi l'auteur, autre formule de Berman, de ce qu'il appelle l'emprise philologique, donc des textes qui ont été finalement capturés par les spécialistes, par les philologues, et qu'il faut retraduire pour les rendre accessibles à un autre public. Voilà, ça
peut, bah, typiquement, quand on a tous ici autour de cette table fait des versions latines, hein, voilà. Certains plus que d'autres, hein, puisque toi tu es antiquisante au départ, mais... On sait que c'est un vrai choc quand on lit ou quand on assiste à des représentations théâtrales qui dépoussièrent, comme on dit parfois, j'aime pas trop la métaphore, mais j'avoue que j'en ai pas eu d'autres, qui dépoussièrent tel texte, alors que les souvenirs que l'on a, c'est les budets bilingues qui ont de grands mérites, certainement, mais qui sont souvent très philologiques, justement, comme, ou très historicisants, et parfois historicisants à outrance, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Mais sur cette question de on retraduit en partie contre ou on retraduit contre, il y avait un exemple évident qui est d'ailleurs discuté longuement dans le chapitre idoine du tome du XXe siècle. C'est le cas de Dostoïevski et des traductions de Markovitch, évidemment, dans les années 90. Mais puisque Markovitch l'a argumenté comme ça aussi, c'est-à-dire il soutenait que les traductions françaises de Dostoïevski étaient pour le coup impropres. Ou des trahisons, pour reprendre une autre vieille lune de la traductologie. Bernard, tu te situes comment par rapport à ça? Quand tu as traduit, tu as retraduit Stefan Zweig, c'est parce qu'il y avait une demande liée à des erreurs ou il y avait un regard ou simplement une nécessité, comme tu le disais, d'avoir une nouvelle génération de traduction?
Oui, alors là, c'était plutôt, bon, c'est une proposition qu'on a faite. Et bon, donc là, c'était... Voilà, c'est pas une des retraductions que spontanément, pour laquelle je me serais porté principalement, le plus spontanément. Mais disons que moi, j'ai une attitude... disons que par rapport à la retraduction, c'est sûr qu'on retraduit contre, au sens où on peut actualiser. Mais comme j'ai beaucoup travaillé là-dessus, aussi sur le plan théorique et sur le plan historique, je m'aperçois que... Ce dont il faut tenir compte, c'est que, pour reprendre l'exemple de Dostoïevski, même moi, mes connaissances en russe sont totalement rudimentaires, donc ce n'est pas pour prononcer là-dessus, mais Dostoïevski, malgré tout, a eu... Enfin, moi, j'ai lu Dostoïevski avant les retraductions. Ça m'a énormément marqué. Je n'étais pas le seul à avoir été très marqué par Dostoïevski. Dès la fin du 19e, bien sûr, en France, l'influence du roman en russe est très forte. Donc, en fait, ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui... passe, même si la traduction est critiquable. Mais en fait, elle est critiquable. Elle peut être critiquable sur le moment, mais à mon avis, si elle est non compétente, non rigoureuse, non philologique aussi, parce qu'en fait, quand, pour être traducteur, il faut quand même connaître très très bien la langue. Il y a une sorte de contrat moral hein, qu'on doit avoir avec, avec l'auteur, et avec la, la, la langue et la littérature. Mais il y a aussi, donc, à part cet aspect-là, mis à part le fait qu'il y ait des traductions qui soient faites un peu en amateur au mauvais sens du terme, eh bien, il y a le fait qu'il y a des conceptions générales de la traduction qui dominent à telle ou telle époque. Et donc, on peut bien sûr traduire contre ces traductions, mais par exemple, de nos jours, on est beaucoup dans, la, dans une idée, justement, de très grande proximité au texte, rendre le souffle du texte. C'est moi, je suis tout à fait convaincu par ce type de position, mais c'est peut-être, c'est aussi une position historique. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, on avait d'autres positions.
Oui, il y avait l'idée, il y avait l'idée d'acclimater dans, dans le génie de la langue, dans le génie de l'esprit français, par exemple. Ça a été toute une époque aussi. Hein.
Oui. Et mais, donc, les, voilà, de nos jours, c'est vrai que je pense qu'on retraduit plus contre, en effet, mais dès lors, on fait, on amène aussi à relire les œuvres. En fait, c'est intéressant, quand on a une retraduction, de lire aussi en fonction de ce qui a été traduit avant, pour voir, justement, ce que peut vouloir dire une œuvre. C'est comme si on écoute, il y a beaucoup de traductologues qui n'aiment pas cette comparaison, moi je considère quand même qu'elle a pas mal de valeur, si on écoute plusieurs interprétations d'une même œuvre musicale. En fait, on se dit, bah, on a la partition, vous regardez la partition, vous dites, bah oui, les deux pianistes jouent en fait la partition.
Je pense que, alors je te rejoindrai là-dessus, parce que je pense qu'il y a aussi tout un aspect, la retraduction, les théories ou la réflexion contemporaine, et quand je dis contemporaine, c'est-à-dire depuis 50 ans, hein, autour de ces questions-là, fait qu'actuellement, cette question est même mise en scène, non plus de manière diachronique, c'est-à-dire on retraduit 20 ans après, 50 ans après, même de manière simultanée, puisqu'on a les combats de traducteurs,
les joutes,
voilà, je retrouvais plus le terme, merci, les joutes de traduction. Tu as déjà participé à des joutes de traduction
Une joute très préparée, mais alors moi, c'est pas du tout mon...
D'accord.
Voilà, moi, je suis pas du tout spontané, donc la joute de traduction, c'est pas pour moi.
Et donc, les joutes de traduction, pour l'expliquer vite fait, c'est effectivement, un même texte est confié à au moins deux traducteurs qui, sans avoir connaissance de ce qu'a fait l'autre, proposent leur traduction. Et donc là, on est sur une mise en scène de la possibilité d'un nombre X de versions d'un même texte à partir d'une traduction. Ok, très bien. Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette idée de la retraduction, ou aussi du fait qu'actuellement aussi on a plein de textes contemporains qui sont traduits pour la première fois et dont on ne peut pas s'empêcher, il serait naïf de penser que dans 30 ans, peut-être quelqu'un reprendra le flambeau et dira « Non, tout ça, ça ne va pas. » Peut-être que Yoko Tawada, nous en parlerons, sera retraduite dans 30 ans par quelqu'un qui proposera un tout autre choix que Bernard Banoun.
J'espère.
Et voilà. Et je pense que c'est important quand on est un vrai traducteur.
Dis hypocritement. Hein,
oui. Ah oui, non, on est toujours partagé. Mais enfin, moi, je pense qu'on peut dire « j'espère » tout en étant tout à fait conscient ou certain d'avoir bien fait son travail. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est-à-dire on fait le mieux possible son travail et on se doute qu'il peut y avoir une retraduction, malgré tout.
Non, mais je voulais juste rebondir sur la comparaison avec la musique. Je pense qu'elle est tout à fait avec la partition. Et on pourrait faire la comparaison aussi avec la mise en scène, puisqu'on travaille tous les deux sur aussi les questions de traduction théâtrale. De même qu'il peut y avoir de multiples mises en scène d'un même texte de théâtre. À chaque fois, ce sont des choix. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi d'expliquer aux étudiants hein, qui ont cette surprise, leur faire prendre conscience de quasiment l'infinité des choix possibles de traduction, de mise en scène. Alors, peut-être pas infini, parce qu'il y a quand même... Il ne faut pas partir n'importe où pour traduire quand même de façon correcte. Mais voilà, peut-être cette notion de choix communes à l'interprétation musicale, à l'interprétation par le metteur en scène et à l'interprétation du traducteur.
Et puisqu'on parle de musique, alors on ne va pas être dans l'opéra, mais on va faire une première pause musicale et je vais piéger un peu mes invités en leur faisant une petite surprise. Alors, que je vais quand même contextualiser, une petite anecdote, un chanteur allemand, Udo Jürgens, au début des années 70, s'éprend lors d'une visite en Grèce, tu vois, on est en Grèce, pas antique, mais contemporaine, bien sûr, de la Rezina, et donc écrit une chanson qui devient un grand tube, que je vais prononcer avec mon allemand approximatif, « Griechische Wein ». Et cette chanson a un certain succès en Allemagne, mais elle fait surtout l'objet d'une traduction en espagnol, Vino Griego, qui devient un tube planétaire pour le coup, et c'est revenu en France par la version espagnole, et c'est d'ailleurs désormais devenu avec des paroles... Bon voilà, je diffuse pas le chant des supporters de l'aviron bâillonné, mais enfin il y a un chant des supporters de l'aviron bâillonné qui est depuis quelques années repris sur cette terre. Donc on va écouter Vino Griego de José, je sais pas, Bélez.
Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entrer. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Hablaron del día que tuvieron que partir, que como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón.
Et nous sommes donc toujours dans les studios de Radio Campus avec José Bélez, Vino Griego. Et j'ai eu un commentaire, alors pas exactement sur Instagram, qui m'a un commentaire provocateur évidemment de quelqu'un qui me disait « La Peña Bayona », évidemment avec la référence. Mais c'est vrai que l'immense majorité des gens aujourd'hui connaissent cette terre par l'aviron bayonnais. Après tout, c'est une manière comme une autre de prolonger, de faire vivre un air et de le traduire. Donc nous sommes toujours dans I Love Mes Cheveux avec mes invités dont à qui je ne demanderai pas s'ils aiment le vin grec ou pas, mais Vino Griego, on parlait de l'histoire des traductions en langue française avec Bernard Banoun et Sylvien Bermougin, et j'aimerais faire une petite incursion dans quelque chose d'un peu plus local, qui est que un autre des points communs qui vous rassemble autour de la table du studio aujourd'hui, dans le studio aujourd'hui, c'est outre votre travail dans cette très belle expérience de l'histoire des traductions en langue française, c'est une collection publiée, enfin qui se trouve aux presses universitaires François Rabelais, donc les presses de l'université de Tours, qui est une collection qui s'appelle Traductions dans l'histoire et qui est, je crois, co-dirigée par Bernard et dans laquelle Sylvie a publié deux ouvrages. Alors, je cite quelques-uns des titres de cette collection. Genèse d'une œuvre de traducteur par Solange Arbert, c'est ça, oui. Circulation littéraire de Christine Lombez. Le tournant des rêves de Bernard Banoun et Michaela Enderler-Histori, que l'on salue. Traduire, collaborer, résister. Voilà, donc il y a un certain nombre d'ouvrages. Et donc deux ouvrages co-dirigés par Sylvie, ici présente. L'appel de l'étranger, traduire en langue française en 1886. Et Le théâtre antique entre France et Allemagne. J'aurais dû apporter mes lunettes. Également co-dirigé par Sylvie Humbert-Mougin et Claire Le Chevalier. Alors Sylvie, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que sont ces livres, dans quoi ça s'inscrit, quelle est cette collection Traductions dans l'histoire?
Alors pour la collection, je laisserai Bernard la présenter. Et donc oui, effectivement, j'ai participé à deux reprises à cette collection. Donc avec l'ouvrage que tu viens de citer, Le théâtre antique entre France et Allemagne, qui s'inscrivait dans une perspective historique, qui était un ouvrage collectif, donc qui s'intéressait à l'histoire d'une sorte de triangle finalement entre France, Antiquité, surtout Antiquité grecque, et Allemagne, et qui s'intéressait donc à la façon dont France et Allemagne s'étaient trouvés en situation à la fois de concurrence, hein, finalement assez souvent, mais aussi de contact forcément, sur la question de la traduction de l'Antiquité grecque, mais aussi de la mise en scène du théâtre antique. Donc ça, c'était un ouvrage issu de deux journées d'études qui a dû être publié, j'ai un trou,
il y a quelques années,
en 2012.
2012, d'accord. Et puis le premier que tu as cité, L'appel de l'étranger, c'est aussi un collectif issu d'un colloque co-organisé par Bernard, ici présent, Yves Chevrel, qui a été mentionné, et Lucille Arnoux-Farnoux, qui avait participé également à cette émission il y a quelques temps. Et donc, c'était un peu un colloque, une manifestation qui était dans le prolongement direct de HTLF, Histoire des traductions en langue française, donc. Et là, ce livre et le colloque dont ce livre est issu, s'était donné pour objectif d'aller creuser une année bien précise, l'année 1886, pour voir ce qui se passait dans le domaine de la traduction en français, en langue française, donc, et pas seulement en France. Alors pourquoi cette année 1886
j'ai assisté au colloque à l'époque en tant que pur spectateur, mais... je m'en rappelle, mais je pose quand même la question parce que nos auditeurs ne connaissent pas la réponse.
Oui.
Et donc, pour leur donner envie d'aller regarder ce livre...
Effectivement, dans le prolongement de HTLF, il y a eu plusieurs colloques, pas tous édités à Tours, qui ont pris comme ça, comme principe, hein, de faire une sorte de coupe sur une année. Il y a eu quelque chose sur l'année 1830, quelque chose sur 1936. Bon, là, on voit tout de suite que ce sont des années importantes sur le plan historique, révolution, Front populaire, etc. Donc, l'année 1886, ça parle beaucoup moins sur le plan historique. Et donc, en effet, la raison qui avait motivé le choix de cette année, c'est que c'est l'année de la signature de la Convention de Berne, qui fixe donc les choses en matière de droit des auteurs, y compris en matière de droit des auteurs des œuvres traduites. Donc ça, c'était une idée qui tenait aussi beaucoup à cœur à Yves Chevrel et plus largement aux promoteurs d'HTLF, comme on l'a rappelé, c'est de s'intéresser aussi aux conditions matérielles, juridiques, financières, qui rendent possible ou qui, au contraire, freinent la traduction. Et puis, une autre raison qui expliquait le choix de cette année, c'est qu'on parlait de Dostoïevski tout à l'heure, c'est une année, alors, dans un contexte, disons, caractéristique à la fin du 19e siècle, un peu de conflit entre tenants du cosmopolitisme, comme c'est un terme de l'époque, et au contraire adversaires, hein, de cette même ouverture à l'étranger. Donc dans ce contexte fin 19e assez marqué sur ce plan-là, en 1886, c'est l'année où est publié un ouvrage qui s'intitule Le roman russe et qui va beaucoup contribuer à faire découvrir la littérature russe, à susciter une sorte d'engouement pour la littérature russe. Voilà, c'était les deux raisons qui avaient présidé au choix de cette année. Et donc, l'ouvrage propose une sorte de panorama, pas exhaustif là encore, hein, de tous les enjeux de la traduction, qu'est-ce qui est traduit, comment on traduit, quels sont les débats autour de la question de la traduction, et là encore, pas seulement dans le domaine littéraire, mais aussi beaucoup sur les questions de philosophie ou des questions de société, parce que c'est aussi une année où les débats autour de la religion, de la laïcité sont un peu à vif.
On n'a pas progressé d'un iota en 150 ans, mais ça c'est une autre affaire.
Et donc voilà, l'ouvrage proposait à travers cette coupe chronologique, finalement, c'était une façon d'accrocher pas mal de questionnements autour de la traduction.
D'accord, très bien. Donc, à retrouver sur le site des presses de l'université, presse universitaire François Rabelais, pardon, puisque l'université ne s'appelle plus François Rabelais, on va y arriver. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment un ancrage local qui montre que cette question de l'histoire des traductions s'est internationalisée par les ouvrages des éditions Verdier, notamment, dont on a parlé en première partie d'émission, mais il y a une véritable équipe locale qui est très, très, très active sur ces questions-là et depuis longtemps. Oui, Bernard, tu... Par rapport à cette collection, justement, des traductions dans l'histoire.
Cette collection, donc, elle a été fondée, je pense, avec le premier volume, c'est-à-dire dans la première décennie du siècle. Et en fait, moi, quand je suis arrivé à Tours en 2002, il y avait un groupe qui était formé par les germanistes. C'était à l'époque Bernhild Boye, Sylvie Lemoyel et Michel Ender-Restory qui ont commencé à travailler sur la traduction. Il y a eu un ouvrage qui est paru dans ce qui existait avant, qui était la revue Littérature et Nation, qui devait s'appeler Polychronie de la traduction, qui... C'est justement aux temporalités spécifiques et diverses de la traduction. Et puis, parallèlement en fait, avec ces activités à Tours, donc j'ai commencé à me lancer dans le projet HTLF avec les deux collègues qui l'avaient lancé. Et après, donc, on a pu avoir une collection qui n'est pas censé qui était au début très avec beaucoup de germanotropisme, mais ensuite qui est censé pouvoir accueillir toutes sortes de travaux. Alors, il n'y a pas énormément de livres qui sont parus, mais... Voilà, cette collection existe et donc a travaillé aussi bien sur des... Il y a des ouvrages collectifs, des ouvrages personnels, il y a des ouvrages sur des figures de traducteurs comme Elmar Topoven, le traducteur allemand de Beckett et de Nathalie Sarraute, ou sur Celan et Mandelstam, je crois, et puis d'autres sur les questions d'exil, de migration, voilà.
D'accord, très bien. Et alors, une question plus personnelle, mais liée justement à ton profil et à ton travail de traducteur en transition douce, on va dire ça comme ça. Bernard, tu disais hors micro que au départ, tu n'étais pas du tout spécialisé de ces questions d'histoire de la traduction. Tu étais traducteur d'une part et spécialiste de littérature. Cette casquette de spécialiste de l'histoire de la traduction, elle est venue en fait plus tard. Et donc notamment avec cette collection, notamment avec ton arrivée ici à Tours.
Oui, en fait, si rétrospectivement, en fait, voilà, moi, donc je m'intéressais à la traduction en tant que parce que j'avais traduit un peu, commencé à publier des traductions depuis les années 90, mais et ça vaut aussi pour mon apprentissage de la traduction, puisque la traduction, on parlait tout à l'heure des versions latines et des versions grecques. Bon, alors moi, j'ai fait ce genre d'exercice. Ensuite, j'ai fait de la version allemande à l'université, parce qu'en France, on fait aussi du texte. Enfin, la traduction est un rôle très important dans les cursus de traduction, dans les cursus universitaires, parce qu'aussi elle a un rôle important au concours, à l'agrégation, etc. Donc moi, j'étais dans cette perspective-là, à la fois d'étudiant et de traducteur, mais dans la pratique. Et en fait, une pratique assez peu réfléchie, ou bien avec certaines normes qui ne sont pas forcément explicitées. Et c'est en effet quand j'ai commencé à travailler pour ce groupe, c'est le poste auquel j'ai accédé à Tours en 2002. C'était un poste où ça jouait un rôle important, donc je me suis vraiment plongé là-dedans. Alors, évidemment, ça m'intéressait, ça m'était pas complètement étranger, mais je me suis intéressé à la théorie, c'est-à-dire en fait à des questions théoriques de la traduction. Et alors, ça m'a beaucoup intéressé, mais ça m'a aussi beaucoup inquiété sur ma pratique de traducteur. Mais inquiété dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais en tout cas, le fait est que je m'aperçois qu'il y a aussi eu un changement dans l'enseignement de la traduction. Alors, peut-être pas partout, mais en fait, en grande partie quand même. C'est-à-dire que les théories de la pensée de la traduction a quand même infusé, aussi bien chez les traducteurs qu'à l'université, où je pense qu'on explicite plus les choix de traduction. Et je pense que c'est ça qui est en fait important. Plutôt que de se dire, voilà, il y a cette façon de traduire, il faut que je m'y tienne, il faut être le plus possible conscient des choix de traduction, suffisamment d'inconscients qui jouent dans la traduction pour qu'au moins on essaie de conscientiser, de prendre conscience des raisons pour lesquelles, à tel ou tel moment, on va faire tel choix, telle orientation.
Tu parlais de raison, tout choix de traduction doit pouvoir être expliqué, sinon rationalisé. Et c'est vrai que je serais un petit peu moins optimiste que toi, c'est-à-dire qu'il y a encore un nombre non négligeable de collègues, je vais le dire hein, quand même, mais je cite personne, qui ont tendance quand même à répondre aux étudiants que, je sais pas, en anglais, it sounds better, quoi. Effectivement, ça n'est pas formateur pour un étudiant qui ne comprend pas comment il faut traduire ou pourquoi ce qu'il ou elle a fait n'est pas correct, ou n'est pas souhaitable, ou n'est pas idéal, de s'entendre juste dire « Ah, ce que je te propose sonne mieux ». C'est pas extrêmement... c'est peut-être vrai, mais c'est pas très pédagogique en tout cas.
Ça peut être un argument, it sounds better, mais s'il faut pourquoi c'est un argument de choix de traduction.
Tout à fait, voilà. Et donc là, je pense que oui, on a quand même progressé de ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que quand on était étudiant, nous, il y avait un petit peu une espèce de norme comme ça. Et moi, il y a des choses que j'ai fini par comprendre en enseignant la traduction. C'est-à-dire jusqu'à l'agrégation incluse, il y a des choses que je ne comprenais pas, alors que c'était des erreurs que j'ai faites 20 fois de suite. Et je veux bien être un peu bouché, mais je pense que si une de ces 20 fois, on m'avait dit « mais c'est parce que tu fais ça alors qu'il faut faire ça », quand même, je l'aurais entendu, c'est pas possible. Mais voilà. Donc, très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette question aussi, ou la manière dont toi, tu es venue à l'histoire des traductions, c'était vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, lié à cet intérêt pour la réception du théâtre antique. Au départ, c'est vraiment le point de départ de ton intérêt.
Oui, c'est le point de départ, ouais. Et donc, moi, je n'ai pas de pratique de traductrice autre que cette pratique, effectivement, de la version latine, grecque, thème latin, thème grec. Mais c'est ça, effectivement, qui m'intéressait, moi, dans mon approche de... historienne de la traduction, c'est comme tu viens de le dire, Bernard, cette question des choix non explicités, et c'est aussi un enseignement de ma participation au projet HTLF, c'est de se garder aussi peut-être d'une approche trop critique des traductions anciennes. Ça, c'était un peu aussi une philosophie du projet. Je me souviens qu'un des recommandations qu'on s'était donné, c'était d'approcher les traductions, donc y compris anciennes, qu'on est souvent enclin à trouver très éloigné du texte, surtout quand on travaille sur les traductions du texte de théâtre où la pratique très longtemps dominante, c'était celle de l'adaptation en réalité. Mais ce qu'on s'était donné comme objectif, c'était d'aborder ces traductions avec une neutralité bienveillante. C'était notre feuille de route. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que les choix peuvent évoluer, chaque période à sa façon, sa logique peut-être aussi dans l'approche des textes étrangers. Le tout, c'est effectivement de les expliciter, de comprendre la raison d'être de ces choix à telle ou telle période pour tel ou tel traducteur.
Et c'est ce que la lecture approfondie des volumes de l'HTLF fait transparaître aussi, et dont on se rend compte dès qu'on regarde dans le détail, parce que moi j'enseigne la traductologie depuis 20 ans et j'ai traduit un peu comme toi, Bernard, avant de réfléchir de manière vraiment approfondie à cette question-là. C'est faux en plus, enfin, cette idée que depuis 50 ans on traduit de manière extrêmement proche du texte, extrêmement fidèle, alors qu'avant grosso modo c'était open bar et tout le monde faisait n'importe quoi, c'est complètement faux. C'est-à-dire, y a eu ce concept des belles infidèles, il y a eu les questions d'adaptation, mais moi je me rappelle avoir été, j'étais déjà maître de conférence à Tours, avoir été extrêmement surpris en cherchant justement des sujets de traductologie, donc il fallait des traductions publiées, de tomber sur des traductions contemporaines du Vivant de Maupassant ou du Vivant de Balzac, traduit en anglais avec une précision et même parfois presque à la limite du calque, presque, c'est-à-dire presque le reproche inverse de celui que l'on fait encourir d'habitude aux traductions dites anciennes. Donc ça veut dire que des traducteurs, traductrices qui depuis plusieurs siècles traduisent de manière extrêmement précise et pointue, et ça remonte, ça existe, et c'est voilà. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Et effectivement, les quelques milliers de pages de l'HTLF font remonter ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu d'excellentes traductions, même avec des standards dits contemporains, depuis des siècles. Je propose, alors peut-être pas une pause musicale, mais je crois, alors je ne sais pas si tu es tout à fait prêt Bernard, mais tu m'avais proposé de lire une de tes traductions d'un poème de Yoko Tawada, histoire de nous mettre en bouche pour les 20 petites minutes qui nous restent, et parler rapidement, trop rapidement, mais tu reviendras, de ton travail de traducteur. Et donc c'est un poème de Yoko Tawada, donc je diffuserai, j'espère que ça marchera, la version allemande, mais après, c'est ça, tu aimerais oui. lire traduction, et si tu me le permets d'ailleurs, je lirai ensuite moi la traduction anglaise, puisque ce poème existe en traduction anglaise.
Qui l'a traduit,
oui. Voilà, oui. Tout à fait. Donc,
alors j'en dis un mot avant quand même, c'est un poème extrait d'un recueil de Yoko Tawada qui s'appelle Aventure de la grammaire allemande. Ça a été difficile de trouver un éditeur parce que le titre n'était pas très aguichant. Les gens se disent, mon Dieu, la grammaire allemande, quelle horreur. Voilà. Mais donc, Yoko Tawada est une autrice japonaise qui écrit en japonais et en allemand, qui habite depuis une quarantaine d'années en Allemagne. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont sur un regard extérieur sur la grammaire et sur la langue allemande et sur l'allemande aussi. Et donc, en fait, dans ce poème, qui est très, qui est assez énigmatique, je dois dire.
Tu me rassures.
Oui, oui. Je l'ai lu comme... et traduit aussi dans l'idée... Alors, c'est un poème sur la lettre CH, le CH allemand, qui se prononce selon, après certaines voyelles, CH, après d'autres voyelles, RE. Qui est donc une difficulté de traduction. C'est une traduction de difficulté de langue, d'expression. Et donc en fait, qui est aussi une des difficultés pour bien sûr un japonais ou une japonaise qui parle allemand. Et moi en fait, ce que j'en ai fait, c'est que j'en ai fait comme si c'était. J'ai gardé la dimension allemande, parce qu'évidemment, traduire un texte comme ça, on peut dire comment peut-on garder la dimension allemande? Il faudrait dire aventure de la grammaire française, puis par une japonaise, mais je voulais pas faire ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est comme si j'ai ajouté un tiers, c'est-à-dire que dans mon imaginaire, ça va peut-être pas paraître dans la traduction, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de langue maternelle française, qui apprend l'allemand en France et qui est donc confronté à ça. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai placé dans des pays, disons, méditerranéens. Voilà. Donc, mais j'ai laissé les mots allemands dans le texte.
Certains mots allemands,
dont je pense que, vu par le contexte ou la sonorité, ils se comprennent. Donc, j'ai gardé la pluralité du texte. Et l'idée de la polyphonie d'un texte, d'un texte à plusieurs langues, c'est très tawadien. Donc, je me suis dit, j'ai plutôt forcé ça plutôt que de réduire à un texte français.
Il faut savoir que Yoko Tawada, outre ce recueil de poèmes, paru à la Contre-Allée, tu as publié combien de livres de Yoko Tawada chez Verdier? 6 ou 7,
chez Verdier principalement, oui. Voilà, donc je vais lire ce texte énigmatique. Alors à la fin, ça finit par... Il y a le pays CH, qui est peut-être la Suisse, un pays neutre, parce que la question de l'Europe et des frontières est très très importante pour Tawada. Voilà, donc. Ich nicht devant une voyelle claire. C'est le titre du poème. Gleich subito, je vais vous faire une danse du bord, me trémousser près d'une mare fraîche où se dresse un chêne allemand. Je vous écrirai un bourg, livre impie, et on me hissera hoch sur la potence. Je suis un tépich volant, voilé d'un tour. Quelle poisse, fuir, ich, connais-tu le pays CH? La lecture des signes saints C et H reste en suspens.
Et j'essaie de diffuser en essayant de ne pas me tromper. La lecture par l'autrice elle-même, Yoko Tawada, de Vor einem hellen Vokal.
Vor einem hellen Vokal. Gleich werde ich meinen Bauch zeigen und tanzen an einem Teich, wo eine deutsche Eiche steht. Ein gottloses Buch werde ich euch schreiben und steige hoch auf den Galgen. Ich bin ein fliegender Teppich mit einem Kopftuch. So ein Pech. Kann ich fliehen? Kennst du das Land CH? Die Lesart der heiligen Schriftzeichen C und H bleibt weiter offen.
Et donc, on remarque aussi que le pays, enfin, c'est l'indicateur national de la Suisse, hein, CH, se dit en plus CH en allemand, puisque le H se dit H. Je vais essayer de lire la traduction anglaise, parce qu'on a entendu, j'espère qu'on a entendu. Est-ce que je vais retrouver ce texte? Où est-il? Traduction en anglais. Ah, voilà. On a entendu dans ta lecture que tu étais resté très près, en fait, puisque le fait, un des avantages de garder les mots allemands te permet, par exemple, de garder la potence, de garder le tapis volant en Teppich volant. Un choix radicalement différent, appelé Free Translation d'ailleurs, par Susan Bernofsky. Chagrin. Should I take a chance and chase a slouching wretch along the beach or lunch beneath a birch in the country CH? A chef reads a chic brochure beneath a chandelier. Meanwhile, an alchemist chronicles chaos, which he characterizes as a chimera. I always get a stomachache in a church. Donc, on est assez loin quand même du poème d'origine, puisque là, si je comprends bien ce qu'a fait la traductrice, mais je n'ai pas passé deux heures à l'étudier non plus, c'est qu'elle a séparé les sons CH en anglais selon leur prononciation, puisqu'on a notamment la troisième strophe dans laquelle tous les mots en CH se prononcent que alchemist, chaos, chimera, characterizes. Donc, elle a fait autre chose en gardant quand même, je pense, l'idée principale de l'apprentissage et de l'aventure, Abenteuer, des aventures dans la grammaire allemande, sauf qu'il n'y a plus l'allemand quand même. On n'est plus dans la grammaire allemande quand même, on est plus dans la phonologie et phonétique de la langue anglaise. Donc des choix très différents, ce qui est un peu inévitable dans l'absolu et sur ce genre de texte encore plus, je suppose. Mais, alors j'ai une question, est-ce que en tant que traducteur, j'espère que tu auras l'occasion de citer quelques-uns des auteurs, autrices que tu as traduits et des éditeurs aussi, surtout avec qui tu as travaillé, parce que c'est très important. On parlait tout à l'heure des conditions matérielles, juridiques. S'il n'y a pas de maison d'édition qui s'engage parfois sur des textes un peu compliqués, c'est compliqué. Est-ce que, vu en réaction à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que tu préfères, toi, traduire justement des textes qu'on va dire expérimentaux, je mets beaucoup de guillemets autour de l'adjectif, ou est-ce qu'il te faut de la variété? Est-ce que de temps en temps, tu es content aussi de traduire des textes écrit dans une prose plus classique, on va dire ça, ou est-ce que c'est même pas un sujet? Tu as le droit de me dire que ma question est à côté de la plaque.
Alors, en fait, expérimentaux, on peut considérer que la poésie de Yoko Tawada est assez expérimentale, et même que dans ses œuvres romanesques ou narratives, c'est le cas. Disons que personnellement, je suis quelqu'un qui traduit, on pourrait parler rapidement, assez près du texte. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux, c'est Friedrich Schleiermacher, le philosophe allemand, qui a écrit un texte fondateur, qui a été d'ailleurs traduit par Antoine Bergmann, que mentionnait tout à l'heure Sylvie, et donc qui s'appelle « Des deux méthodes du traduire », où il dit, voilà, il y a deux méthodes. Il faut soit on amène le texte vers le lecteur, de la traduction, c'est-à-dire qu'en fait on va traduire en adaptant, en climatant beaucoup, soit on amène le lecteur vers le texte, ça veut dire qu'on va le confronter à l'étranger, à la matérialité de l'original, etc. Bon, on est toujours en traduction, de toute façon on ne peut pas choisir entièrement, puisque comme on traduit une langue étrangère, forcément on amène vers le texte, vers le lecteur, mais on est toujours dans des tensions, après c'est une question de poids ou de radicalité des choix. Moi en tout cas je suis plutôt quelqu'un qui traduit en essayant de garder le plus possible le lien à l'étranger, aussi bien par le rythme et par la forme. Et donc, par exemple, dans cette traduction du poème de Tawada, c'est sûr que j'ai gardé le même nombre de vers, parce que pour moi, il y a un nombre de vers, je ne sais plus si c'est 11 et 13, mais enfin, quand j'avais travaillé sur le poème, je me suis dit, voilà, c'est très important, etc. Suzanne Bernofsky, qui est une traductrice que je connais depuis 25 ans et qui est une très, très grande traductrice et quelqu'un d'extrêmement cultivé et expérimental aussi, elle a fait un choix totalement différent, et sur ce poème de Tawada, on pourrait faire plusieurs. Je traduis plutôt des auteurs dont je trouve qu'ils ont une langue très particulière, très, je dirais pas complexe, mais une langue à eux, C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui traduit, comment dirais-je, une langue, qui suis très intéressé par des auteurs qui auraient une langue qui demande justement que les idiomatismes soient transférés vers le français. J'aurais plutôt tendance, par exemple, s'il y a des expressions, en fait, leur garder leur saveur originelle. Voilà.
Tu as notamment traduit un auteur qui s'appelle Joseph Winkler, mm-hmm. C'est une traduction qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, Langue maternelle, chez Verdier. Mm-hmm. Alors d'ailleurs, le titre, hein, c'est Langue maternelle quand même. Donc oui. Déjà, en soi, c'est déjà tout un programme. Et c'est 2008, voilà, il me semblait bien que ça remontait.
Voilà, donc Joseph Winkler, justement, c'est un auteur autrichien, qui est né en 1953, qui a été amené chez Verdier par le directeur de la collection, la collection qui s'appelle donc Doppelgänger, mm-hmm. en anglais ça veut dire le sosie, mais en allemand ça veut dire le double, mm-hmm. donc évidemment sur la traduction, et Jean-Yves Masson, qui a créé la traduction dans les années 90, a donc publié Winkler depuis, je crois, 90 justement, enfin en tout cas ça fait maintenant 35 ans, il y a maintenant une douzaine de livres, je pense, où on est plusieurs traducteurs, hein, traduire Winkler. Et maintenant, Winkler commence à être reconnu dans l'espace français, mais en fait très très peu par rapport à l'écrivain qu'il est. Et donc là, justement, la ténacité, la fidélité, l'engagement, parce que c'est un véritable engagement sur tous les plans d'un éditeur est extrêmement important, oui, capital.
Et donc tu as donc lu, je suppose, Winkler en allemand, et tu as lu aussi les travaux de tes collègues traducteurs. Est-ce que le lecteur français qui lirait la totalité, c'est une question difficile, hein, mais qui lirait la totalité des Winkler de chez Verdier en français, est-ce qu'il y a une sorte de, comment dire, de ligne de partage, c'est-à-dire vous le traduisez quand même, alors chacun avec vos choix bien sûr, mais avec quand même par exemple cette attention à ne pas trop le franciser ou à ne pas trop le simplifier.
Oui, alors bon, il y a aussi une chronologie, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis le deuxième traducteur par chronologie qui a commencé à traduire Winkler, et c'est vrai que c'est un auteur en plus c'est un auteur très complexe, avec un univers, des réflexions, des phrases qui reviennent constamment d'œuvre en œuvre, et il y a aussi Olivier Lelay, mais qui a traduit simplement un ouvrage, j'irais beaucoup pour Verdier et pour d'autres éditeurs, mais il a traduit un petit ouvrage, en quantité, en volume de Winkler, et sinon c'est Eric Dortu qui en a traduit trois chez Verdier. Et quand j'ai commencé à traduire Winkler, j'ai beaucoup regardé ce qu'il avait fait. Parce que, justement, comme c'est un auteur obsessionnel avec, en fait, des choses qui reviennent, toute son œuvre, et quand on cherche, on dit « j'ai lu ça, mais où ?» Parce qu'en fait, c'est une espèce d'océan, et en fait, telle phrase peut se retrouver, telle expérience, il ressasse toujours les mêmes, certaines expériences clés. Et en fait, c'était très important de garder ces points de repère pour un lecteur français. Donc, il y a cet effort-là qui a été fait, et je pense qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble de l'œuvre française.
Ouais. Parce que vous lisez entre vous, parce que tu as lu les précédents, et qu'il y a une volonté d'essayer de garder ses échos et de ne pas repartir à chaque fois à zéro, quoi, ce qui, je pense, serait problématique. Enfin, ce que tu disais de Winkler, ça fera peut-être écho pour des personnes qui nous écoutent par rapport à Thomas Bernhardt aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs traducteurs pour Thomas Bernhardt, mais quand on le lit en traduction, le rythme est tellement obsessionnel que, à moins de vraiment faire n'importe quoi, je veux dire, c'est difficile de ne pas garder Bernhardt en quelque sorte. Hein, mais tout à fait, tout à fait. Et donc parmi les auteurs, autrices que tu as traduits, donc Yoko Tawada, Werner Kofler, aussi aux éditions Absalon, et peut-être chez d'autres éditeurs aussi.
Non, uniquement chez Absalon, qui a fermé il y a plusieurs années. Donc en fait, c'est plutôt anecdotique, mais c'est un auteur qui me tient toujours très à cœur, qui était né en 47 et mort en 2011, et en fait que j'ai connu par un collègue autrichien. Et donc j'ai publié un de ses textes, le premier texte que j'ai traduit de lui, qui est un texte extraordinaire qui s'appelle Conjecture sur la reine de la nuit, que j'ai traduit, et j'ai envoyé une nouvelle revue française qui a dit qu'il a publié tout de suite. Je me suis dit, la voie est ouverte pour Kofler. Et ensuite, plus rien. Et donc, j'en ai publié un peu, jusqu'à ce qu'un jour, c'était l'époque des fax, arrive un fax chez moi. J'ai lu des traductions de Kofler, traduisez ce que vous voulez. Et donc, c'était... un couple, les Fagnot, et notamment Catherine Fagnot, une spécialiste de Bernhardt, qui a fondé sa maison d'édition à Absalon et qui a publié, je crois qu'on a publié 5 ou 6 conflits. Et ensuite, la maison a dû fermer parce que la passion n'a pas, n'a pas suffi. Mais Catherine Fagnot est restée traductrice. Elle traduit notamment Adelheid Duvanel, qui est cette extraordinaire autrice suisse. Voilà. Ah, okay. Et voilà, donc Kofler, j'en ai traduit plusieurs, et donc j'ai traduit notamment les deux premières parties d'une trilogie, et je n'ai toujours pas trouvé d'éditeur pour le troisième partie de la trilogie, dont Kofler disait, mais la troisième partie, c'est mon Ulysse, c'est mon Berlin Alexanderplatz, c'est... voilà.
Bien.
J'attends, j'attends aussi un éditeur qui écoute.
On isolera le moment où une heure et neuf minutes de l'émission d'aujourd'hui, et on en fera un petit spot, on taguera un maximum d'éditeurs. Il y a quelques éditeurs auxquels on peut penser, pour lesquels ce genre de texte devrait quand même faire tilt. Mais voilà, on le dira. Et une de tes dernières traductions parues, et on finira là-dessus, et puis voilà, tu reviendras quand tu voudras pour qu'on relise et qu'on rediscute de plus en détail de tel ou tel auteur ou autrice. Aujourd'hui, c'est un peu un galop d'essai pour moi. Et il y a Wolfgang Ilbich, si je ne m'abuse, dont tu as traduit un texte qui s'appelle « Vieille écorcherie », dont tu voulais nous lire un extrait, je crois. Alors, Wolfgang Ilbich, c'est...
Oui, alors Ilbich, en fait, c'est un très, très important écrivain allemand, donc né en 1941, mort en 2007, qui a donc été socialisé en RDA, et qui est un très, très grand poète, qui est une sorte de figure type de l'ouvrier poète, mais sauf qu'il ne correspond pas du tout au dogme du réalisme socialiste. Et c'est un poète génial, c'est une sorte de Rimbaud qui est arrivé dans la littérature allemande, comme ça. C'est un poète et c'est un narrateur et donc qui a écrit beaucoup de textes courts et de textes moyens et 3 romans. C'est en fait, Kafka était une des références clés et en fait, il y a beaucoup de proximité avec Kafka. Bon, Kafka n'a pratiquement pas écrit de poésie, mais pour le rapport à la narration. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une langue extraordinaire, parfois un peu précieuse, très énigmatique, justement très portée par Joyce. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une expérience importante pour lui, et notamment pas seulement le Joyce d'Ulysses, mais le Joyce de Finnegan's Wake, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la langue est complètement déstructurée. Et où j'ai donc à la fin du texte, alors si tu veux que j'en lise une partie, je veux bien ouais, que tu me le donnes. Absolument. Parce que je croyais l'avoir ouvert dans mon ordinateur.
Tu m'avais signalé, je crois, autour de page 115, 116. Oui, oui. Voilà.
C'est un texte en fait où le narrateur revient sur son passé, sur les lieux d'origine qui sont des lieux vers l'ouest, enfin vers en RDA. Et. Il fait une sorte d'excursion dans des lieux du passé, des lieux industriels qui se sont effondrés, etc. Et à la fin, j'en donne... il ne faut pas essayer de comprendre. Voilà. Et quand j'ai traduit, je n'ai vraiment pas compris. Quand on lit des lectures comme ça, je me dis, mon Dieu, mais je ne comprends rien du tout.
Donc, voilà.
Et donc à la fin, ça se déstructure un peu.
Donc là, c'est la toute fin de Vieille écorcherie de Wolfgang Ilbich aux éditions. J'avoue que j'ai pas.
Alors, édition L'Extrême Contemporain, qui est une nouvelle maison. Alors, pour le titre, après, je lirai simplement. Là, ça veut dire en allemand, en fait, vieille écarissoire. Voilà. Et en fait, écorcherie, je connaissais pas le mot avant, mais j'y suis venu parce que la traductrice italienne a appelé ça vecchio scorticatoio. Et je me suis dit, quand on a un mot comme ça en italien, il faut trouver autre chose. Et en fait, écorcherie, ça existe, dans ce sens-là. Mais c'est un terme que je n'utilisais pas avant. Voilà donc quelques lignes finales. Sortant et parcourant les plages, les marges de la houille, vieille renonciation, frondaison faisant signe au-delà, poisson comme feuille tombée recouvrant les dernières langues de la houille entreposées dans les sables. Et plus loin encore, le long des hauts filons d'ossements, traversant et sinuant le long des ossuaires, tels des ombres et des vents passant sur les plantations de crânes de la mine. Et nageant plus avant par les tombées solaires de la grande lanterne magique des eaux, et en de grands cercles par-dessus les jardins et moulins engloutis, et plus loin comme rumeur engloutie, à grands cercles alentour, et nuitamment encore comme le cortège incessant de trains ensevelis. Vieille fuminerie, vieille tapaillerie, le long des pierres littorales dessous la terre, claquant de traverse en traverse sur les joints de dilatation, combat de pieux couverts par le bruit, vacarme de clôturerie sous le toit de la terre, vieille écorcherie, vieille écrierie, écarterie, écrierie, vieillerie. Voilà.
Sans commentaire.
C'était à l'oreille. Hein.
C'est, oui, tout à fait. Mais c'est, ça rappelle qu'une traduction est un texte. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est, je me faisais la réflexion que le, peut-être on peut terminer deux minutes là-dessus. Peut-être que Sylvie aura un petit mot à dire là-dessus aussi. Sur le fait que le livre de Yoko Tawada, qui est un recueil de poèmes, est en version unilingue. Il est publié sans l'original. Et on sait qu'il y a des débats extrêmement importants là-dessus. Et il y a des... Il y a notamment un des arguments avancés par les éditeurs qui publient de la poésie sans le texte original, c'est de dire on ne publie pas des romans comme celui dont tu viens de lire un extrait avec le texte en face. Personne ne va reprocher aux éditions L'Extrême Contemporain de ne pas publier le texte allemand en regard de ta traduction. Or, on est dans un geste textuel, littéraire, etc., qui n'est pas différent, en fait, fondamentalement. Donc là... À titre personnel, quand vous lisez, vous préférez les versions bilingues ou vous vous êtes réconcilié avec l'idée d'avoir des... Ou c'est vraiment une question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Hein, c'est pas, voilà, moi, j'ai pas de... Sylvie, je sais pas, que tu lises dans une langue, d'ailleurs, tu lis des traductions de langue que tu connais ou que tu ne connais pas, d'ailleurs. Ou...
Je vais à la traduction.
Tu vas à la traduction, de toute façon,
oui.
Voilà.
Oui,
donc,
oui. Forcément, ça m'arrive d'aller voir le texte original, mais je n'ai pas la religion du texte bilingue.
Tout à fait.
Mais je voulais souligner la musique qu'on a bien entendue dans la traduction.
Tout à fait, tout à fait. Et Bernard, donc...
Alors, en fait, je n'ai pas de position totalement arrêtée là-dessus. Ce qu'il faut souligner à propos justement de matérialité du texte, c'est l'endroit où est placée la traduction. Mm-hmm. Hein, dans les budets aussi, on connaît bien. Alors, est-ce que la traduction est vraiment en regard? Est-ce qu'elle est sur la page de droite ou sur la page de gauche? Est-ce qu'elle est en bas ou est-ce qu'elle est, par exemple, à la fin du livre? Mm-hmm. Et moi, mon expérience en poésie, par exemple, il y a cette magnifique collection Orphée qui était fondée par Claude-Michel Cluny et qui n'existe plus. Et voilà, il y avait les poèmes en bilingue. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais mon expérience, parfois, c'est que si je lis le texte en me reportant à l'original, eh bien, en fait, je ne vais pas lire le texte français qui est l'effort du traducteur pour créer quelque chose. Et donc, parfois, je vais dire, ah ben oui, mais ça change, etc. Mais je ne vais pas.
On finit par lire une sorte d'hybride. On finit par lire une sorte. On lit le premier vers dans une langue, le deuxième dans une autre.
Voilà, et le lire quand même en fonction de l'original. C'est-à-dire, voilà, plutôt comme pour appuyer, pour s'aider à comprendre, alors que certains traducteurs, en tout cas, ont essayé de faire un poème, par exemple, en l'occurrence, autonome. Donc, c'est assez contradictoire.
Tu rejoins ce que je pensais, parce que quand on t'a entendu lire cet extrait de Vieille Écorcherie, ça aurait été un parasitage d'avoir en même temps, ou à côté, ou juste avant, ou juste après, le texte allemand. Donc, on est un peu d'accord là-dessus. Et il y a une pratique, et c'est vrai que c'est une pratique grandissante depuis 10 ou 15 ans, il y a de plus en plus d'éditeurs qui publient le texte original après, en fait, donc, à la fin, ou en plus petit, en bas de page, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce parasitage ou qu'on puisse vraiment décider de ne pas le lire. Et je pense que c'est un peu le meilleur des deux mondes si on essaie de faire ça. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Le temps file et nous allons nous quitter avec... un choix musical proposé, en l'occurrence, par Bernard, un peu indirectement. Nous allons écouter une pièce de la pianiste Akita Kase, dédiée à Yoko Tawada. Donc, on fait la boucle sur la musique, sur le Japon, l'Allemagne, la traduction, le rapport entre musique et textualité. Et bien entendu, on vous remercie bien tous les deux de votre participation.
Merci. Merci, Guillaume. Thank you.
merci d'avoir écouté la 21e de I Love Mes Cheveux, 3e de la saison 2 si on veut être tout à fait complet. Merci donc beaucoup à nos invités Sylvie Humbert-Mougin, Bernard Banoun qui sont venus nous parler de l'histoire des traductions en langue française parue chez Verdier entre 2012 et 2019 de la collection Traduction dans l'histoire aux presses de l'Université François Rabelais, et puis trop brièvement des traductions de Bernard Banoun, Yoko Tawada, Werner Kofler, Wolfgang Ilbich, Josef Winkler, et il m'en manque, mais voilà, mais on aura l'occasion de se reparler. Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, le compte Insta est là, je le rappelle, ILMC 2025. On se retrouve dans 2 semaines, je ne sais pas encore avec qui. Bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM. Faire offre, si vous voulez venir parler dans l'émission, il y a un créneau le 6 octobre. Allez, au revoir.